Chapitre 5. En entendant ce nom légendaire, Nathan frissonna d'excitation. Ildakar. Ces trois syllabes lui flanquant la chair de poule, il s'avisa qu'il souriait comme un petit garçon devant une montagne de bonbons.
Ildakar. Un mythe des temps anciens.
Soudain, Nathan considéra les trois jouvenceaux avec un tout nouvel intérêt.
On dit que c'est une fabuleuse métropole.
Notre société belle et parfaite se perpétue depuis des milliers d'années,
dit Amos, toujours aussi peu modeste.
Mais Ildakar n'est pas une légende, c'est notre foyer, tout simplement.
Et où est-il, votre foyer?
Demanda Nietzsche, moins enthousiaste que son vieux compagnon.
Du haut de la montagne, nous avons aperçu une ville, mais la plaine est déserte.
Si on oublie les soldats de pierre,
précisa Bannon. Amos, Jed et Brock rirent comme si c'était une blague que seuls pouvaient comprendre.
Ildakar est là, sur l'élévation, bien protégée par le linceul. Surtout ne sous-estimez jamais nos sorciers.
Des questions plein la tête, Nathan suivit les trois jeunes gens quand ils sortirent de la zone incendiée. Avec sa longue massue, Amos balayait le sol devant lui pour chasser les débris carbonisés. Une fois hors de la forêt, ils entreprirent de traverser une zone broussailleuse où Jed et Brock s'amusèrent à décapiter les buissons à grands coups de massue. Des gamins destructeurs, désœuvrés, et pas du tout pressés de rentrer chez eux au grand désarroi du vieil homme. L'esprit en ébullition, le sorcier déchu regarda Nietzsche, le cœur plein d'espoir. Certain de trouver les réponses qu'il cherchait, il ne put s'empêcher de sourire. Ildakar avait la réputation d'être un bastion de la magie novatrice, une pépinière de détenteurs et de détentrices du don. Si ces gens avaient vaincu le général Outros en pétrifiant ses troupes avant de se volatiliser dans la brume des légendes, ils sauraient sûrement rendre son don à un vieil homme, exactement comme Rouge l'avait annoncé. Malgré l'espérance qui lui serrait la gorge, Nathan tenta de parler d'un ton neutre.
« Les gars, il me faudrait quelques explications. » Non loin de la frontière septentrionale de l'Ancien Monde, j'ai passé des siècles dans le palais des prophètes. Ça vous dit quelque chose? Un complexe bâti il y a des millénaires. Non? Tant pis. De toute façon, il n'existe plus. Là-bas, j'ai beaucoup étudié l'histoire, en particulier celle des guerres intermédiaires.
Nathan marqua une pause, curieux de voir la réaction de ses interlocuteurs.
Ildakar y joue un grand rôle, comme vous devez le savoir.
Les trois jeunes gens ne parurent pas s'en émouvoir. À dire vrai, Nathan n'aurait pas pu jurer qu'il écoutait. Comme s'il espérait avoir un lien privilégié avec des types de son âge, Bannon prit le relais de son mentor.
Le grand sorcier Nathan m'a parlé de l'empereur Kourgan et de son croc de fer.
Retroussant les lèvres, le jeune homme se tapota la canine gauche.
Le général Outros, d'après lui, a essayé d'assiéger Ildakar, et il a capturé un dragon d'argent pour qu'il lui serve d'arme, mais le reptile géant s'est retourné contre ses geôliers, tout ça avant la disparition de la ville.
Nathan apprécia à sa juste valeur l'enthousiasme du jeune insulaire. Cela dit, il aurait préféré que Bannon le contienne jusqu'à ce qu'ils en aient appris un peu plus.
« Au fait, les gars, »
intervint-il,
« comment vous êtes-vous échappés ?»«
Échappés d'où ?»
s'étonna Amos.
Quand le linceul affaiblit, nous sommes sortis de la ville. Puisque les sorciers sont en train d'évaluer leur récent sortilège de sang, le phénomène se reproduira. Du coup, il nous reste beaucoup de temps pour retourner au bercail.
Alors que Brock décapitait un innocent buisson, Jed se lança à la poursuite de ce qui devait être un serpent ou un lapin. Par-dessus son épaule, Nathan jeta un coup d'œil au site dévasté. Mara les avait-elle suivis?
Non, à première vue.
Et pourquoi avait-elle plus peur de ces trois types que du monstre ou d'un incendie? Les jeunes sots ne semblaient pas si dangereux.
La ville que nous avons vue depuis Colader brillait comme un mirage,
dit Nietzsche en époustant le devant de sa robe.
Ça ne semblait pas du tout naturel.
Et ça ne l'était pas,
confirma Amos.
Selon la puissance du linceul, Ildakar apparaît ou disparaît comme une balise dans le brouillard du temps et de l'espace. Quand les sorciers s'efforcent de maintenir l'antique sortilège, le linceul fluctue plus que d'habitude. Avec mes amis, nous avons saisi l'occasion d'explorer le monde extérieur.
« À ce moment-là, »
dit Brock, « on peut se venger de nos ennemis. »
Rageur, il abattit sa massue sur un innocent buisson d'épineux.
« Enfin, sur quelques-uns d'entre eux. »
J'espère que la ville réapparaîtra bientôt,
dit Jed.
Voilà 3 jours que nous crapahutons. Je ne cracherai pas sur un bon bain et un repas chaud. Les rations de survie, ça va un moment.
Amos eut un sourire complice.
Je te croyais surtout pressé de retourner voir les Yaksen de soie.
Les 2 autres jeunes gens éclatèrent de rire.
Par les gonades du gardien, fit Brock. Avant de dépenser tant d'énergie, j'ai besoin d'être propre et reposé.
Moi, souffla Jed, il me suffit que les filles soient propres et reposées.
C'est quoi les Yaksen de soie? Demanda Bannon. Les 3 jeunes femmes lui jetèrent un regard méprisant.
On te montrera peut-être un de ces 4.
Désormais composé de 6 membres, le petit groupe continua son chemin à travers le maquis. Se cacher étant désormais inutile, il atteignit vite la plaine où Nathan ralentit le pas pour étudier les milliers de soldats pétrifiés. Il y en avait partout. Transformés en statues alors qu'ils vaquaient à leurs occupations dans le cadre d'une campagne qui n'avait jamais atteint son objectif. Quand ils passèrent à côté de 4 cavaliers, leurs destriers carapaçonnés jusqu'aux naseaux, Nathan reconnut les diverses pièces d'armure qui protégeaient les équidés. Toutes étaient ornées de la flamme stylisée de l'empereur Kourgan, un symbole qu'il avait vu sur les guerriers du passé depuis le sommet de la tour de garde. Jambe droite levée, un des chevaux semblait avoir été pétrifié en plein galop. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'une statue en équilibre précaire. Équipés à l'ancienne, les cavaliers avaient de quoi donner des sueurs froides à n'importe qui. Coiffés d'un casque à crête doté de protection pour le nez et le menton, un plastron leur enserrant le torse, ces guerriers d'un autre temps arboraient aussi une cotte de maille renforcée de disques de métal pour plus de sécurité. Prêts à charger, ils brandissaient une épée courte et une rondache, elle aussi ornée des armes de l'empereur Kourgan. Bannon s'immobilisa pour admirer les fantasques cavaliers.
Il devait se préparer à partir en patrouille.
Amos posa les mains sur le destrier à la jambe levée.
« Aidez-moi »
lança-t-il à ses amis, qui obéirent sans discuter.
« Et toi aussi, Bannon, tu peux nous donner un coup de main ?»
Perplexe, le jeune insulaire prit place à côté des 3 gaillards.
« Que sommes-nous censés faire ?»
demanda-t-il. Comme Brock et Jed, il plaqua les mains sur le flanc du cheval.
Contribuer à notre façon à un antique conflit,
répondit Amos. Ses amis et lui poussant de toutes leurs forces, le cheval oscilla. Ignorant sur quel pied danser, Bannon ne les aida pas vraiment.
C'est un vestige de l'histoire, jeunes gens,
grogna Nathan, indigné.
Vous ne devriez pas.
C'est un cavalier ennemi,
rétorqua Amos, empourpré par l'effort. Basculant enfin sur le côté, la statue s'écroula. La jambe levée du cheval se brisa et le cavalier fut cassé en 2. Amos et ses 2 amis reculèrent tout joyeux.
« Encore 100 000 et nous en aurons terminé !»
lança Jed. Le petit groupe reprit son chemin à travers le camp où des guerriers, pétrifiés en pleine activité, attendaient un hypothétique réveil. Équipés de pied en cap, beaucoup d'entre eux étaient prêts au combat, n'ayant besoin que d'un ordre pour charger. Tels d'implacables sentinelles, 2 colosses, les bras croisés, sondaient le terrain pour l'éternité.
« Pourquoi n'y a-t-il ni tente ni étendard ?»
demanda Bannon. Ce fut Nathan qui répondit.
« Parce que la toile et le tissu sont depuis longtemps pourris. Contrairement aux guerriers, ces matériaux ne se sont pas transformés en pierre. »
Une main en visière, le vieil homme regarda autour de lui. Sur sa droite, 10 soldats fossilisés reposaient sur le sol, entourés d'herbes folles. À leur position et à leur tenue, Nathan supposa qu'ils dormaient autour d'un feu, protégés par des couvertures dont il ne restait plus trace depuis longtemps. D'autres hommes, bras tendus vers les flammes, avaient dû être en train de faire rôtir de la viande sur une broche. Les mains au niveau de l'entrejambe, un type urinerait jusqu'à la fin des temps. Enfin, aurait uriné. Si Amos et ses compagnons n'avaient pas trouvé drôle de briser ses mains de pierre et de casser en 2 son membre viril. Quand le groupe arriva dans une clairière, où se dressait peut-être jadis un pavillon ou une grande tente de l'intendance, Amos leva une main pour ordonner une halte.
« Un bon endroit où camper, non ? Bannon, vous avez des vivres ?»«
Ouais, des bonnes choses à manger, »
renchérit Jed.
« En assez grande quantité pour les partager. »
Nietzsche foudroya les 3 gandins du regard.
Quand on part en expédition, on se prépare mieux que ça.
La critique sembla faire mouche auprès d'Amos.
Nous avons de quoi faire, dit Nathan, et partager avec vous sera un plaisir.
Il décrocha son sac de son épaule, l'ouvrit et en sortit la venaison conservée grâce à un sort qu'il devait au talent de chasseuse de Mra. Les trois jeunes imprévoyants sourirent aux anges.
« De la viande fraîche, quel délice !»
jubila Brock. Unissant leurs efforts, les six compagnons ramassèrent des branches mortes et du petit bois. Dès que Nathan eut érigé un cercle de pierre, les jeunes aventuriers y déposèrent en vrac ce combustible. Accablé, Bannon s'accroupit et se mit au travail.
Pour faire un feu, il faut procéder par ordre. D'abord de l'herbe sèche, puis des brindilles et enfin les grosses branches.
« Pourquoi se donner tout ce mal ?»
demanda Amos. D'un claquement de doigts, il embrasa l'anarchique tas de bois, en un éclair de superbes flammes crépitèrent.
« J'avoue que c'est bien plus rapide comme ça, »
marmonna Bannon. D'ailleurs, Nietzsche procédait de la même façon chaque soir. Alors que la nuit tombait, ils firent rôtir de la viande, puis s'installèrent pour manger. Malgré tous ses efforts, Nathan ne parvint pas à arracher plus de détails aux trois jeunes gens. En revanche, ils fournirent le dessert, des gaufres au miel et des petits gâteaux que le vieil homme trouva délicieux. À force d'en consommer, argua Amos, ses amis et lui s'en étaient lassés. Dans la pénombre, Nathan sonda le paysage qui lui rappelait les plaines d'Azrit en Dara. Malgré son immensité, l'étendue luxuriante qui s'arrêtait abruptement au bord du fleuve, sur un pic impressionnant, semblait avoir du mal à accueillir la horde de guerriers venus pour conquérir Ildakar. Après avoir pris une deuxième gaufre, Nathan désigna le lointain abîme.
« Une configuration étrange, » dit-il. « Normalement, un fleuve si large aurait dû creuser une grande vallée. Là, on dirait qu'une hache a fendu la plaine en deux. Le gouffre est vertigineux. »
« Ce n'est pas un hasard, »
dit Amos en léchant le gras qui faisait luire ses doigts.
« Pour mieux défendre Ildakar, les sorciers ont combiné leurs pouvoirs pour surélever ce côté de la plaine des centaines de pieds au-dessus du fleuve Chasse-Corbeau. La dénivellation interdit toute attaque à partir de l'eau. »«
Seuls des fous oseraient s'en prendre à Ildakar, »
marmonna Brock tout en mâchant sa venaison.
« Au trop si ces hommes l'ont appris à leurs dépens. »
« Si elle est introuvable, »
intervint Nietzsche,
« qui pourrait attaquer votre ville ? Au fait, où est-elle passée ?»
« Ça, c'est une part de notre génie !»
répondit Amos sans entrer dans les détails. Avec pour bruit de fond le bourdonnement des insectes nocturnes, Nathan récapitula ce qu'il savait grâce à l'histoire et aux légendes. Si les sorciers d'Ildakar étaient capables de tels exploits, l'aider à recouvrer son don serait un jeu d'enfant pour eux. Mais d'abord, il fallait retrouver la cité vagabonde. Le lendemain, longtemps après le lever du soleil, les six voyageurs reprirent leur chemin au milieu des guerriers pétrifiés. De temps en temps, une des statues retenait l'attention des trois jeunes prédateurs. Son pantalon de pierre toujours sur les chevilles, un homme occupé à se soulager sur des latrines depuis longtemps disparues avait fini par basculer sur le côté. Pour une raison inconnue, Amos et ses amis le réduisirent en miettes. En règle générale, ils s'en prenaient à des colosses qui semblaient avides de conquérir leur ville. Avec leur massue, ils détruisaient en priorité ces visages-là, une activité qu'ils semblaient trouver hilarante. Après tout ce qu'il avait lu sur Ildakar la Glorieuse, Nathan fut déçu par ce comportement.
« Je suppose que le général Outros est quelque part parmi ces statues, » dit-il en sondant les rangs de guerriers. « Je donnerais cher pour le retrouver, afin de voir à quoi il ressemblait. Un simple intérêt historique. »
Comment l'identifier ?
Demanda Bannon, les yeux baissés sur la statue vandalisée par Amos et ses complices.
Ces hommes ne portent aucun insigne ?
Fiston, en cherchant assez longtemps, on trouvera un type croulant sous les galons et les médailles, au centre du camp, sans doute là où se dressait jadis le pavillon de commandement.
Le vieil homme lissa le jabot de la chemise qu'il portait depuis son départ de surplomb du monde.
Le problème, c'est le où se dressait. Il ne doit plus rien rester, ni meubles, ni bannières, ni cartes. »
Pensif, Nietzsche regarda en direction du gouffre encore très loin devant eux.
Si ces sorciers géniaux étaient si puissants, de quoi avaient-ils donc peur? Surélever une partie du terrain pour se protéger, ça ne trahit pas une grande confiance. Au contraire, dit Amos, c'est une preuve de notre invincibilité. Le fleuve Chasse-Corbeau est certes une voie commerciale, mais en ces temps très sombres, ses flots charriaient aussi des envahisseurs stupides et des conquérants idiots. Pour les dissuader, nos sorciers, tels des potiers, ont remodelé le paysage. Depuis, Ildakar reste inconquise et nous sommes plus forts et plus glorieux que jamais.
Grognant sous l'effort, le jeune homme renversa une nouvelle statue. Songeant au gouffre, Nathan se demanda comment ils allaient s'y prendre pour descendre jusqu'à l'eau si c'était vraiment leur objectif. Refusant de lui répondre, Amos et ses amis ne cachèrent pas que ces questions leur tapaient sur les nerfs. À une demi-lieue du but, sous un soleil de plomb, Nietzsche lâcha la bonde à son agacement.
« Alors, où est cette ville ?»
Sa robe noire couverte de brins d'herbe et de débris, elle ne semblait pas d'humeur accommodante.
« Nous sommes là où il faut, en gros, mais j'ignore quand le linceul tombera. Nous ne pouvons rien faire pour accélérer le processus. »«
Ce soir, il faudra peut-être encore camper, »
fit Jed morose.
« J'aurais préféré... »
Comme si une silhouette, dans la mégalopole invisible, les avait repérés de très loin, l'air brilla soudain, puis commença à changer. Nathan y capta une odeur métallique, à croire que la foudre avait frappé dans les environs. Un bourdonnement de moustiques se fit entendre, puis gagna en intensité, jusqu'à faire grincer les dents du prophète déchu. En un clin d'œil, la plaine se volatilisa pour révéler ce qui se cachait derrière un sort de camouflage. Dès que le scintillement de la magie ne l'éblouit plus, Nathan put admirer la fabuleuse cité d'Ildakar juste devant eux.